Hello to you all, and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next 30 minutes. On today's show, access to a life-saving intranasal naloxone program could end soon in New Brunswick. Community workers worry that the life-saving measure could be harder to get.
So I now currently have around 400 kits in my house because they'll just... It is of the utmost importance. One reason being that if you don't use, you know, substances, if you don't use opioids, but you carry a kit, you've become a safe person.
The Cortis Island Food Bank off the BC coast released its annual report, showing a 600% increase in need for food.
When you realize that there's this much need on the island, then we haven't really got the resources to deal with it in a sustainable way for years and years without getting anybody paid for doing their work. So that was one of the things that's really clear, that we've got a big need.
In Kitchener, Ontario, the Irish Real Life Festival has some alternative ways to celebrate St. Patrick's Day. In a city where drunken St. Patrick's Day parties have become too common in recent years.
If my culture was only celebrated a certain way, which is basically all sort of think going out and having lots of drinks is Irish culture, then I would be upset at that representation. So this is kind of our response to it. We're like, well, nobody else seems to be putting anything else on. Let's see what we can do.
Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Thanks for keeping us company. It would not be the same without you. We'll travel from one end of the country to the other today and start things off in the Maritimes, where access to a life-saving intranasal naloxone program could end soon in New Brunswick. Community workers worry that the life-saving medication could be harder to get their hands on. Naloxone is an important tool because it can reverse the effects of an opioid overdose. Ashley Legere gives intranasal naloxone kits and training to people throughout the community. She's the executive director of the first permanent emergency shelter, Cumberland Homelessness and Housing Support Association in Amherst, Nova Scotia, where she leads a team providing shelter options and meals to about 45 individuals. But she's also involved in harm reduction initiatives across the Maritimes, including New Brunswick. She offers training and free intranasal naloxone kits to groups, businesses, and anyone else interested in knowing how to administer this life-saving treatment. However, her access to free kits is ending on March 31st with no extension in sight. Health Canada's Substance Abuse and Addictions Program has been providing funds to St. John's Ambulance to run the Reaching Home Program that provides training and intranasal naloxone to Legere. Journalist Tori Weldon spoke to Ashley Legere in Sackville, New Brunswick.
Ashley Legere knows these small red naloxone kits inside and out. She's the executive director of the Cumberland Homelessness and Housing Support Association, and she also trains people on how to use these naloxone kits.
I've provided Duckies with kits, the post office with kits. I trained food bank with kits. I trained a significant amount of number of people and service providers in Amherst as well as Moncton.
Legere received the training from St. John Ambulance and is the only trained trainer in Sackville or Amherst. These kits are important, and they can and often do save lives.
And Narcan reverses the opioid overdose in your brain. So if you think of your opioid receptors as egg cups, and the opioids are the eggs, and Narcan goes in and kicks those opioids out and sits in your opioid receptors, and it allows you to breathe. Because opioids are respiratory depressants, the opioids in your system are depressing your respiratory system, and Narcan just goes in and enables you to breathe again.
There are two widely available types of naloxone kits. One is intramuscular and is given with a needle. The other is intranasal. And according to Legere, it's easier to use, especially for people who aren't used to working with syringes.
The intranasal kit is just two nasal sprays that you put in the sinus cavity and give it. So it is much lower barrier. People are more willing to take the training and carry it. People are more willing to then pass that training on or recommend the training to other people.
At the end of Legere's training session, she gives participants two free intranasal naloxone kits to take with them. They, like Legere's training, are supplied by St. John Ambulance, but the program's funding could be ending soon.
My name is Alana Ballant. My pronouns are she, her. I'm in Hamilton, Ontario, and I'm the program manager for the Reaching Home stream of St. John Ambulance's National Opioid Program. So our Reaching Home stream is the one that focuses supports to frontline workers, nonprofit workers, poverty relief workers who are supporting people in sort of the overlap of the housing and the toxic drug crisis at this time. So in our program for New Brunswick, we've trained 3,600 folks in responding to opioid poisonings, and we've distributed over 7,000 kits in the community during our approximately 4 years of operations.
The money for this program comes from Health Canada, and it runs out March 31st of this year. St. John Ambulance has applied to continue the program. So far, there's been no indication that more money is on the way. We reached out to Health Canada, and it responded that 700 proposals for funding are being considered. Since 2017, it says it's invested over $565 million and provided support to nearly 390 community-based projects focused on a range of substance use issues. Through the Department of Health, the province distributes naloxone kits free of charge to, quote, people who are at risk of overdose, to family and friends, and to anyone who is most likely to witness and respond to an opioid overdose, end quote. Now, the province says it's supplied about 8,900 take-home naloxone kits since October of 2018. But without St. John Ambulance providing naloxone as well, there could be fewer kits in the community. The Department of Health says it's aware that the program is potentially ending and that it's working with St. John Ambulance to, quote, understand the potential gaps in services for New Brunswickers that may result from the end of federal funding and to identify ways to address them, end quote. And the opioid crisis is here. It's in this province. It's in this area. The Department of Health says in the first half of 2023, there were 23 opioid-related deaths in this province, though it notes the data is still under review and is subject to change. Through her work, Ashley Legere knows people who have died.
We've had multiple deaths in Sackville. We've had multiple deaths in Amherst from the toxic drug supply and the toxic drug poisoning.
So she's stocking up on naloxone kits to distribute before the program potentially wraps up.
So I now currently have around 400 kits in my house because they'll just... They had 300 last month, they gave me 150 this month, and then they'll give, I think, whatever is left, they'll distribute amongst service providers.
Legere will continue to give trainings and disperse these kits in the community as long as she has access to them.
People who use substances reverse more opioid poisonings than paramedics do. So if you can get these out in the community, you are relieving some of the burden of healthcare. So the people are being revived and staying alive at home. It is of the utmost importance. One reason being that if you don't use, you know, substances, if you don't use opioids, but you carry a kit, you've become a safe person. I put mine on my, I have a Herschel backpack and I carry it there, and it's bright red. It has a great big cross on it that says naloxone. So it's very visible. It reduces stigma. Like, I carry an Narcan kit with me all the time, and not just because of the job I do, but because when I walk around my community, I want someone to, who I may never know or never know their name, feel like there's people who love them and care about whether or not they live or die.
Anyone interested in receiving nasal naloxone training and the kits that come with it can contact Ashley Legere at sackvilleharmreduction@gmail.com.
You're listening to Viewpoints with Boris Sassang.
So before making our way to the West Coast, we'll drop by Ontario, where the 8-day Irish Real Life Festival kicked off last weekend. A week ahead of St. Patrick's Day, which is coming up on March 17th, the organizers of the Irish Real Life Festival in Kitchener want to put on a different show. They want to move beyond the usual narrative of beer drinking and dig into a deeper understanding of what Irish culture is all about. The 8-day festival Festival is in its ninth year. It celebrates all elements of Irish culture and not just those which, in 2019, led to a party that at its peak saw 33,000 students converge on Ezra Street in Waterloo. Organizers of the Irish Real Life Festival spoke about how they are working to expand people's understanding of the Irish story by showcasing another side of Irish culture, such as Irish storytelling, spirituality, and history. Journalist MP Holmes spoke to Sue Naley, the director of the Irish Real Life Festival.
I'm of Irish heritage. My parents immigrated here, and we were looking for something to do around St. Patrick's Day that had some real sort of cultural interest or significance. And, you know, like, there's so many great Irish films, there's great Irish theater, there's music, there's so many things to celebrate. And there was nothing going on other than sort of pub nights, right? And love a good pub night, but we were looking for something else, a little broader sort of, you know, representation. And after that, we were talking to a friend of ours, and she was like, you know, yeah, there really isn't much here. And if my culture was only celebrated a certain way, which is basically all sort of think going out and having lots of drinks is Irish culture, then I would be upset at that representation. I was like, that's interesting, because we just sort of ignore that part as Irish people. We're like, okay, a lot of Irish people in the community don't actually go out on St. Patrick's Day because it's just not a great representation. So this is kind of our response to it. We're like, well, nobody else seems to be putting anything else on. Let's see what we can do. So we started partnering with businesses, with theater companies, with musicians, and all kinds of different people, and had so much interest. People were like, this is great. Like, this is something that we want to help with. And it sort of grew out of there. It was partly a response to, you know, a lot of the shenanigans that happen around that time of year. And people were really happy to have something genuine, something that showcased a better side of things.
According to the CBC, on St. Patrick's Day in 2018, an estimated 22,000 people jammed into the Ezra Street neighborhood near Wilfrid Laurier University. In 2019, the CBC reported that number swelled to 33,000, most of whom were students. The strain on the police, emergency services, and local authorities was significant, and in 2018, the costs for this one day reached over $700,000. Both regional and city councillors have been vocal in their displeasure, and armed with a city report full of recommendations, the City of Waterloo has set out to reduce numbers. But the thing that really reduced numbers in 2020 and 2021 was COVID. In 2022, the revelers were numbered at about 4,000, and last year, that number doubled to 8,000. The Waterloo Regional Police did not respond to CKMS News about what their plans are this year regarding St. Patrick's Day celebrations, but that is consistent with previous years where they've remained tight-lipped before the actual day. The relationship between heavy drinking, the Irish community, and St. Patrick's Day in particular has a dark history. Nally explains the struggle of balancing the drinking culture, the joy of seeing a wide variety of people who want to identify as Irish, and celebrating the culture in other ways.
None of us are against having a good time. You know, that is very much part of Irish culture, is being together and celebrating. And, you know, that is an important part of who we are. But yeah, it's tricky because we don't want to be heavy about why drinking is sometimes an issue. We don't mind people having a good spring fling. We all need it, you know, once the winter is over. But it's just important to note that there's a long history there for Ireland, and there's reasons why the people responded with alcohol. So our aim is to say, okay, yeah, that is part of who we are, for sure. And green was illegal, wearing a shamrock was illegal for many years in Ireland. So seeing thousands of people wear green and wear shamrocks, there is something heartening in that. The fact that people want to sort of identify in a way as Irish, that's beautiful. Yeah. But let's not forget that there's sides, talk about our stories and our people and our history in different ways and show them more respectfully.
Some of the festival events highlight the similarities between the Irish community and the Indigenous community, focusing on shared experiences and similarities rather than shared trauma.
So one of the things that we try to do is also acknowledge that we're people who have come here, the diaspora, and we want to live, you know, as good neighbors. And so we try to do some events where it connects with the Indigenous population locally. So this year our theme is storytelling. So we're having some Indigenous storytellers with doing a storytelling circle with these two Irish storytellers who are coming over from Dublin, and finding those commonalities in our stories. And it's beautiful. We don't want to always focus on the commonalities of trauma. We want to celebrate where we come together in other ways as well. So that's always been important to us.
In addition to celebrating cultural similarities, the festival program presents Irish culture through both a historical and a contemporary lens.
And we try not to be too... We try to balance out like the heaviness of the history with who Ireland is now and the beautiful parts of it. So we are doing a talk on the walls, the mural art of Northern Ireland, with a professor from Grable who did his master's in that, all about the conflict up there and how that shows in the street art. So that's going to be at the registry on Wednesday the 13th. That's going to be really interesting, and a short documentary showing some of the murals. Mm-hmm. And then we're also doing a storytelling night with these two storytellers that we've brought over from Ireland. We have music, we have some family events where kids can see different sides, like dancing, or some of the great kids movies like The Secret of Kells. Mm-hmm. What else do we have? We're doing one on Celtic spirituality. Is something that's of big interest to people. I'm exploring that. And some fun things like a trivia night or an Irish sing-along with ukuleles. So we just try to have a bunch of different things that are going to appeal in all kinds of ways.
The event, The Walls Tell a Story, is at the Registry Theatre, and it explores the murals of Northern Ireland, which have become symbols of Northern Ireland, depicting the region's past and present political and religious divisions. Given Ireland's recent experience with war, Nellie commented on how exhibits such as The Walls Tell a Story can help promote peace in areas including Palestine.
As a people, I mean, there is a big connection with the struggles of the Palestinian people and struggles globally with other people whose cultures and identity and place, you know, in their lands are being threatened. So there's a great connection there and a great empathy for what's going on. The reasons for why we do what the festival does is about continuing that path of peace and rediscovering and reconnecting people to the culture and being proud of the culture, because there's a lot of shame in a post-colonial or a post, you know, if you've been in an oppressive history. So that's our mission. But we have been talking about, we want to do something that acknowledges globally these stories. And we're looking at working with groups from a few different cultures who've experienced these things to acknowledge the struggles, but then to like, what is the path forward? So like Ireland is, you know, a century-ish ahead of on a path from a situation similar in ways to that. So what have we learned? Where can we go? How can we support other people's going through this?
I'm MP Holmes. Thanks for listening.
Do you have questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
You're listening to Viewpoints.
The Cortes Island Food Bank released its annual report showing a 600% increase in need for food. The Cortes Island Food Bank is now serving around 80 clients a month on Cortes Island. Now, that may not seem like much, but Cortes Island, located some 150 kilometers north of Vancouver, is home to only 1,000 residents. Some 3,000 tourists visit the island each day during the summer months. So 80 clients, that's a 616% increase year over year, according to the report. It was quite scary because we weren't expecting that big of a rise, says Felipe Figueira, coordinator and treasurer of the Cortes Island Food Bank, speaking to Louis Belcourt.
We wanted to put together an annual report really to tell our members what we've been up to, what our challenges have been, and how the food bank operates. Because I think there's a lot of misconceptions about certainly the size of the operation that we've got and how big it's got, and then how much resources we've got to deal with it. And then also to paint a picture of where we wanted to take the food bank, really.
So what did you learn from putting all this information together, all the data that you've collected throughout the year? And what did anything spring out when you really put it all out in front of you?
Yeah, well, the main thing is really the rise in clients. And we've been collecting data more and more accurately over the years. I think it's the third year that we've been collecting data. And one of our main tasks this year was just to really figure out how many clients are really out there if we stepped up and got into a position where we could really offer a good service, because we were getting a low level in the summer months and it never really rose that much. And I think it's amazing. People still didn't know that there was a food bank on Cortez. That was one of the things that was the main focus in last year, certainly creating a website, making sure that people could email us easily and contact us through the website, that they understood what we could offer. And then we also created a virtual phone number and got it listed in the phone book and on Google so that people could easily find us and just ask for help. And we started all that off in basically August. We really ramped up promoting the food bank, and immediately we got a real response of so many more people. And now, and it was quite scary because we weren't expecting that big a rise. It was also heading into the winter months when everybody's, you know, really suffering and there's not so much seasonal work. And also inflation just went through the roof. And I think even though our government stats say that it's declining, I think everybody is experiencing going to the stores and being shocked by what they're buying and how much it costs and for basic groceries. So I think we just hit that peak. And then I think that's also been something that's been happening nationally. I mean, all food banks across Canada are seeing this huge rise in client numbers. So that was interesting, but we wanted to document what exactly we were seeing. And it's important to put that down in a report so that we can tell the community, but we can also tell local government agencies and funders and grants what we're seeing. And we've got data to prove it, that we've got a big problem on our hands here. So, yeah.
What would you say was some of your biggest challenges throughout the past year managing the food bank and managing this sharp increase of requests for food?
Right. Basically, we were in a position where we really geared up to source food. We didn't want to ramp up advertising the food bank without having food to be able to supply to people. And then we also ramped up the number of places where people could get food. So we made sure people could get food at the Gorge once a week, or once every 2 weeks, sorry. And then alternate weeks, they could pick up stuff at Manson's, because a lot of our clients don't have transport and that kind of thing. But it's a lot of work. It's pretty well a full-time job, and we've got some great people working for the food bank, but it's really demanding. So that's one of the challenges. When you realize that there's this much need on the island, then we haven't really got the resources to deal with it in a sustainable way for years and years without getting anybody paid for doing their work. So that was one of the things that's really clear, that we've got a big need. Food is tricky to source or to budget for, because if we have huge client numbers, then we need a lot more money to be able to feed them. And we just need more money, basically, to provide this service on the island.
And so moving forward into 2024, where I was looking at the report and there's been a continual increase in the request for food. Do you have any strategies moving forward or any particular priorities that you want to focus on to try to keep providing this great service?
I think we did a lot of grant applications and we were really successful in a lot of them. So some of them are from Food Banks BC to help us try and build a more sustainable food bank, but it's money that's not allocated for food. And then we also got some really good money from United Way for a lot of food infrastructure, which is like fridges, freezers, shelving, bringing our storage facilities up to standard. But again, that's not for food. And we've done some good fundraising as well, and people have been very generous on the island. But we're going to be short of money for food. So we need to keep doing that. The other priorities were really, so we're trying to build a more sustainable organization. And part of that is getting more people involved who can contribute to some of the jobs that we need doing, because it's basically come down to very few people doing all the work. So we need to make it, broaden that out a little bit. And that we've trained some fantastic people, and we're very, very careful about how we train people, so they really understand the confidentiality issues and understand some of the common misconceptions that people have about food bank users.
What are some of the common misunderstandings of the food bank service in general and food bank users?
I think historically there's always been, the poor have always been somewhat blamed for the situation they're in, right? And the assumption that I hear a lot, unfortunately, from people in the community sometimes, that they feel that people are taking advantage of the food bank, which is really unfortunate that people think that, because the clients we see are people who are basically you and me. They're just people who are struggling to make ends meet through no fault of their own, and they've been put in this situation where everything has become so much more expensive. And it just takes a little thing to push them over the edge, right? You have a medical crisis, you lose your job, you have a sort of financial hiccup that means that you can't get money for a month or something, and suddenly you can't make ends meet. You have to pay all these bills, you have to pay increased housing costs, increased energy costs, heating costs, and we've also got an economy where most jobs are seasonal, right? So if you don't earn enough in the summer to see you through the winter, then you're going to be struggling. And yeah, and I think we just, long term, a community our size should really have a proper food bank facility. It's really costly for us to have no proper food bank, because we have to truck all the food to the community halls. So every couple of weeks, we have to take all the boxes to the gorge and wait for clients. And we have to make sure we have enough there for all the clients that are going to turn up. And the same thing with the hall, Manson's Hall. So it's really time consuming and costly and labor intensive to do that. And if we had a proper building that could maybe be shared with other food security initiatives, then it would make life a lot easier. And I think it'd be much more supportive of the community as well. So that's a plan. We need to find land. We need to find funding. But it's not impossible. I think we could probably, we're working on that over a 3-year period. We're going to try and set something up where we can do that, hopefully.
If someone listening is inspired to help you guys out, what can someone do to contribute?
Financial support is always the best thing. We can make that money go so far. We can buy in bulk, and we're getting about 80 clients a month, or 80 client visits a month. And if you think each client is getting a box, and each box costs anything from $75 to $100 for 2 weeks, which is not excessive, obviously. If you total that up for the year, it's a lot of money. We've calculated that if we get 100 clients a month, then it's $120,000 for the year, which is obviously money we don't have. So money is the biggest thing. People can continue contributing food if possible, but with that volume of people, there's not enough food that gets donated, unfortunately, for us to be able to use it to feed a large amount of people. So yeah, we've got a website, cortezfoodbank.ca, and there's information there about how you can donate, and there's a few options there.
Thank you so much for your time and all your work, Philippe.
No problem. Pleasure.
Louis Beaucourt, Cortez Island.
And that's it for us at Viewpoints. Our reporters were MP Holmes, Louis Belcourt, and Tori Weldon. Thanks to our national editors, Maureen McEwen and Victoria Fenner. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. Don't forget to write. We love to hear from you. Our email is radio@frequencynews.ca. I'm your host and producer, Boris Chassaigne. That's it for this week, and until the next, ciao.
And you know what that means. It's les rendez-vous de la francophonie.
Check out rvf.ca to discover all the activities and contests happening across Canada.
If it sounds like Montreal, it sounds like CKUT. CKUT's annual funding drive is back, and this year we're celebrating the city that made us. From Friday, March 15th to Sunday, March 24th, tune in for an earful of Montreal-made magic. Your favorite programmers will be live in studio and live streaming online for the first time ever. Tune in online, on the good old-fashioned radio, or join us in person. CKUT friends and family will be providing the tunes for an opening party at Bar La Marche à Côté on March 14th and a closing night on March 23rd at Nouvel Établissement. Stay tuned at our website for other events that put the fun in fundraising. Don't miss these celebrations of community radio and sounds of the city from your favorite local DJs. We need $50,000 to keep CKUT on the map. Powering a nonprofit radio station is more expensive than ever. Will you answer the call of your community before it's too late? Donate now by visiting cKUT.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, the sound of Montreal since 1987.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, votre regard sur l'actualité locale au pays. Boris Chassaigne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, nous n'avons que trois sujets en liste, mais pas les moindres. On prendra d'abord la direction de Winnipeg, rencontrer l'auteur Ivoiro Manitoben et puis Fanny Nangui.
L'amour n'est pas vu de la même façon dans toutes les cultures. Alors je défends les valeurs de ma culture africaine et en même temps je critique celles que je trouve qu'elles ont besoin d'être réévaluées.
On plonge dans le fascinant récit que nous propose la série balado Paroles de Nord Côtière, 40 ans d'histoire féministe qui ont marqué non seulement ce territoire, mais le Québec dans son entier.
Fait qu'on avait comme pas le choix, je pense, d'aller dans cette intimité-là pour comprendre toute l'ampleur du mouvement. Parce que la base de la vie, c'est les liens qu'on tisse avec les gens. Puis je pense que sur la Côte-Nord, on est bien bon pour faire ça. Parce qu'on aime vivre, parce qu'on aime se rencontrer, on aime se rassembler, parce qu'on aime être tissé serré.
Et sur une note plus légère, on glisse vers les territoires du Nord-Ouest, se rincer les yeux devant les sculptures sur glace du festival Snow King.
And in the first place, which I'm very proud of because it's a local team, alumni from Snow King, team Y2Y with the Lumas and Underwater.
C'est pas des gens qu'on va voir souvent pendant l'année. On les voit seulement quand, à ce concours-là quand on va à Yellowknife, mais on essaye de passer de plus en plus de temps à Yellowknife quand on vient parce que justement, il y a vraiment une belle communauté puis on a envie de participer à cette communauté-là.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X at Canada LGI.
Merci d'être avec nous. L'auteur Ivoiro Manitoben, Epiphanie Nangui, a élu domicile au Canada il y a un peu moins de 2 ans. Elle habite le Manitoba et heureusement pour nous, elle arrive avec, dans ses valises, 2 ouvrages dont elle est l'autrice, Le mariage à tout prix et Illusion. Et elle n'est pas que romancière, car Epiphanie Nangui a une formation de médecin addictologue en Côte d'Ivoire. Elle travaille aujourd'hui à la Fédération des parents de la francophonie manitobaine. Dans son premier roman, Madame Nangui met l'accent, écrit-on dans la revue La Liberté au Manitoba, sur la pression sociale qui peut exister sur les femmes africaines pour se marier. Je me suis inspiré, dit-elle, cité dans ce magazine, d'histoires vécues autour de moi par d'autres femmes, fin de citation. Et dans Illusion, Epiphanie Nongui voulait vraiment donner du sens au dicton « L'amour rend aveugle ». Gaëlle Mpoyo à Winnipeg au Manitoba n'a pas raté sa chance de partir à la rencontre d'Epiphanie Nongui dans le reportage qui suit.
Son parcours littéraire a débuté dans l'enfance avec un rêve de créer de mondes fictifs. Inspiré par son vécu et celui d'autres femmes africaines, Epiphanie Nongui met en avant dans ses écrits l'oppression sociétale liée au mariage dans certaines communautés africaines.
J'ai toujours aimé lire. Les livres ont été pour moi une passion depuis l'enfance. Alors, ma vie a toujours été faite autour des livres. Alors, pour moi, avoir un livre, c'est avoir le meilleur cadeau. Ouais. Alors, à force de lire, on finit par écrire. Ouais. Je me rappelle, mon premier essai de livre, c'était quand j'étais au primaire. J'ai écrit à peine 5 lignes et j'ai abandonné. Mais j'ai toujours ce rêve de devenir écrivaine. D'abord, j'écrivais pour moi. Comme un journal de mes réflexions, de mes pensées par rapport aux événements que vivent mes amis autour de moi, que vivent la famille, sur le thème du mariage. Alors j'avais plusieurs façons que j'écrivais et après je me suis dit « mais attends, je peux faire un livre ». C'est comme ça qu'est venue l'idée de créer toute une histoire autour de ma réflexion.
L'auteur dénonce les traditions encore ancrées dans ces sociétés où le rôle sont prédéfinis pour les femmes et la docilité est attendue.
Mes livres tournent autour de l'amour. Parce que l'amour en tant que tel n'est pas que rose. L'amour est parfois noir. Alors dans mes livres, je ne décris pas l'amour comme une histoire vécue heureux de nombreux enfants. Je décris tous les aspects. L'aspect beau et en même temps l'aspect qui blesse, l'aspect qui fait mal. Oui, c'est tout ça que je décris. Mais tout ça, je décris ces histoires d'amour dans un contexte purement africain. Parce que l'amour n'est pas vécu tout seul, il est vécu dans un environnement. L'amour entre deux personnes est vécu dans un environnement qui peut varier selon les pays, les cultures. Alors, je suis africaine, alors j'écris mes livres dans un contexte africain. L'amour n'est pas vu de la même façon dans toutes les cultures. Alors, je défends les valeurs de ma culture africaine et en même temps, je critique celles que je trouve qu'elles ont besoin d'être réévaluées.
Malgré ses engagements professionnels en tant que médecin, Epiphanie Nongui a trouvé le temps d'écrire ses romans. Elle révèle qu'elle mijote déjà des personnages pour un troisième ouvrage et la confiance que l'histoire s'écrira d'elle-même. Epiphanie Nongui est un exemple inspirant d'une artiste qui utilise ce mot pour explorer de questions sociales importantes et offrir une voix à ceux qui sont trop souvent marginalisés. Son travail continuera sans aucun doute à susciter la réflexion et l'espoir. Winnipeg, Gaëlle Poyot pour IGL.
Madame Nongui planche sur un troisième ouvrage qui sera bien plus long que celui de 5 lignes qu'elle dit d'avoir écrit à l'école primaire. Elle travaille actuellement à camper ses personnages.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
On quitte les prairies pour se tourner vers le Québec, où le regroupement des femmes de la Côte-Nord souffle ses 40 bougies, un anniversaire qu'on souligne comme il se doit, en grande pompe, en publiant un nouveau balado qui donne la parole à des femmes qui ont marqué l'histoire et les luttes sociales de la Côte-Nord durant les 40 dernières années. À travers les témoignages de femmes engagées, ce récit immersif de 8 épisodes retrace des moments charnières de l'histoire féministe de la région, ainsi que les luttes qui y ont mené pour faire face aux conditions sociales souvent difficiles, et notamment les inégalités de genre, la violence conjugale, les violences à caractère sexuel ou encore l'accès aux soins de santé dans les régions dites éloignées. Notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent en discute avec deux des instigatrices de ce beau projet, Mélanie Bernier, qui est la coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord, et Anne-Édith Daou, qui prête sa voix au balado.
Je suis aujourd'hui avec Anne-Édith Daou, qui est l'animatrice du balado Parole de Nord-Côtière, ainsi que Mélanie Bernier, qui est la coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord, qui a produit le balado. Bonjour toutes les deux.
Allô, allô.
Allô.
Je suis contente de pouvoir vous parler. Dans le premier épisode, on revient sur la création du regroupement des femmes de la Côte-Nord qui visait à donner la parole aux femmes qui étaient silencieuses, écouter leurs histoires. Puis je pense que c'est un peu ça que vous refaites aussi avec le balado, finalement, c'est donner la parole aux femmes encore une fois. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très réussi dans le balado. Pourquoi donner la parole aux Nord-Côtières? C'est quoi l'importance d'archiver ces voix-là?
Pour les côtoyer encore aujourd'hui, pour la plupart, tu sais, je trouve que c'est des femmes qui sont vraiment fortes. Elles ont quelque chose à raconter. Elles ont fait la différence pendant vraiment, tu sais, sur différents projets, à différents moments. C'était important, je pense, de leur redonner cet espace-là. La Côte-Nord, pour toutes sortes de raisons, est souvent un peu oubliée à travers le Québec, même si elle est la plus grande ou la deuxième plus grande région en superficie. Je trouve que c'est important de redonner ce qu'elles ont fait. Elles ont fait des choses extraordinaires quand même. Là. Il y a eu des changements de loi qui ont été faits. Il y a eu des projets qui sont partis d'ici, comme Femmes et Sœurs ou qui est rendu à vol maintenant. Mais c'est des choses qui sont rendues nationales et qui partent de la Côte-Nord. Un projet comme Pignon sur rue qu'on entend parler dans le troisième épisode, je pense, où les femmes ont réussi à acquérir en fait 9 maisons sur le territoire de Sacré-Cœur à Aguaniche pour des groupes de femmes, pour leur permettre d'avoir une stabilité, une pérennisation, mais aussi de pouvoir faire rouler leur économie en louant des locaux à d'autres personnes. Fait que tous ces projets-là, toutes ces femmes-là, en fait, elles ont fait des choses qui n'existent pas ailleurs. C'est important de leur redonner la parole.
C'est des événements qui se sont produits sur 40 ans. Puis quand on est dedans, on dirait que, tu sais, quand on dit qu'on a le nez collé sur l'écorce, là, on voit pas la forêt, là, mais c'est un peu ça, le principe. C'est les femmes sont dedans, ils savent que c'est important ce qu'elles font, mais lorsqu'on regroupe tous ces événements-là ensemble, il y a aussi cette fierté-là d'appartenir au groupe, cette fierté collective-là, cette mémoire collective-là à célébrer. Fait que je pense que c'est d'autant plus important de les nommer, ces choses-là. Et quoi de mieux que de le faire par les souvenirs de ces femmes-là qui étaient sur place, qui s'en rappellent, qui ont été marquées. Moi, ce qui m'a beaucoup marquée de ma mère, en fait, c'est qu'elle me disait, tu sais, moi, être au contact des femmes nord-côtières, être au contact de ce mouvement féministe-là, ça l'a défini la professionnelle et la travailleuse que j'ai été, que je suis, mais ça m'a aussi défini comme femme. Donc, parfois, on oublie l'impact, dans le fond, du travail qu'on peut faire ou de l'engagement qu'on peut avoir envers sa communauté. Puis, je trouve que le balado apporte. Et même les femmes me disaient, mais mon Dieu, que ça me fait du bien de te parler et de regarder en arrière, de regarder dans le rétroviseur, puis de me souvenir de ce que j'ai fait. Parce que moi, je regarde juste en avant. T'sais, c'est rare qu'on s'arrête pour faire le bilan, puis qu'on regarde en arrière pour voir tout ce qui a été fait. Mais là, c'est comme si ces 20 femmes-là, cette vingtaine de femmes-là, se racontent, puis ça permet de donner une petite tape sur l'épaule puis de dire « Ouais, c'est pas rien ce qu'on a bâti ensemble. » Puis pour les jeunes femmes qui n'ont pas nécessairement marché dans ces pas-là, c'est aussi un modèle de fierté de dire « J'appartiens moi aussi à cette communauté-là puis j'ai ces gènes-là en moi puis moi je peux continuer. »
C'est quoi ce fameux voyage à la tête à la baleine dont on parle dans l'épisode 6? Moi, je suis pas au courant de cette histoire-là. Est-ce que vous voulez la résumer brièvement? Je suis certaine qu'ici, il y a des femmes qui s'en rappellent sûrement.
C'était en 2008. Les femmes, en fait, tu sais, il y a des membres individuels, il y a des membres, il y a des groupes, en fait, membres, des groupes de femmes sur le territoire qui sont membres du regroupement. Et à ce moment-là, il y avait les cousines d'Adeline qui était membre et qui venait de la Basse-Côte-Nord, peut-être à la baleine, qui était membre aussi du regroupement. Puis souvent, elle se déplaçait pour venir dans nos rencontres 2 fois par année. Puis je pense que les femmes se sont mises à rêver, à dire, nous aussi, on est capable d'aller se déplacer chez vous. Fait que sont parties une cinquantaine de femmes. Ils ont arrêté à Tête à la baleine quelques jours. Ils ont fait des rencontres avec les femmes à Tête à la baleine. Ils ont vraiment rassemblé, en fait, les femmes qui venaient de d'autres MRC avec les femmes qui viennent de la Basse-Côte-Nord. Puis je pense que ça fait une expérience vraiment, vraiment marquante pour la plupart. Tu sais, c'est pas rien, 52 femmes qui se déplacent sur la Basse-Côte-Nord. Là.
On a l'impression parfois, sur la Côte-Nord, on visite même pas notre propre territoire. Fait que c'était une façon aussi à elles de découvrir le territoire, mais surtout de découvrir les enjeux aussi liés à leur réalité. Lorsque les gens de la Basse-Côte-Nord viennent à cette île, à Port-Cartier, ou viennent sur la Côte-Nord, qui nous racontent leur situation, quand on le vit pas, on peut pas se l'imprégner, ça. D'où, je pense, l'importance de se rendre dans la région pour comprendre c'est quoi les défis en matière d'approvisionnement, c'est quoi les défis en matière d'accès aux soins de santé, c'est quoi. Puis on dirait que les femmes, quand elles sont arrivées là-bas, c'est comme s'ils prenaient conscience de toute de tous les enjeux, de tous les défis, mais en même temps de toute la beauté du territoire aussi, puis de la magie qui se passe, puis de l'importance de la communauté, puis des liens tissés serrés. Donc il y avait vraiment quelque chose de, c'est ça, ils prenaient conscience de par leurs yeux, mais aussi de par l'expérience qui ont l'expérience, en fait, de juste marcher cette terre-là, puis d'être en contact direct avec les femmes. Puis dans le balado, il est aussi traité, en fait, il y a une pièce de théâtre qui avait été montée à ce moment-là par les femmes de la Basse-Côte-Nord, une pièce de théâtre humoristique. Donc, il y a eu vraiment des beaux échanges, puis une belle connexion, je pense.
On parlait d'enjeux, le balado, il revient sur 40 ans d'implication, de lutte féministe. Une telle entreprise ne peut pas se faire sans aborder aussi les inégalités de genre, la violence conjugale, les féminicides, les violences à caractère sexuel ou encore, on en parlait un peu plus tôt, l'accès aux soins de santé en région dite éloignée. C'est toutes des problématiques qui sont encore malheureusement très contemporaines au Québec et en Côte-Nord. Est-ce que le balado, c'était aussi pensé comme un outil de sensibilisation à ces enjeux-là liés aux inégalités de genre?
Ben, définitivement. Ça n'a pas le choix, en fait, de s'en aller vers de la sensibilisation parce que juste de faire connaître ces réalités-là, ces enjeux-là dans lesquels on est encore confronté aujourd'hui, c'est de la sensibilisation.
Oui, bien, ce balado-là, en fait, il s'adresse à toutes ceux et celles qui aiment les femmes, qui s'intéressent au mouvement féministe régional, nord-côtier, même provincial aussi, parce que le travail de ces femmes-là a eu un impact provincial, parce qu'il y a eu des lois qui ont été changées, il y a eu de la jurisprudence qui a été faite, parce qu'on reste une région où on a le plus haut taux, en fait, de violences conjugales et de violences à caractère sexuel. Donc, ça fait en sorte qu'on devient en quelque sorte un beau laboratoire pour justement créer des projets pour sensibiliser les gens à la violence conjugale ou la violence à caractère sexuel. Moi, j'espère en fait que ce balado-là pourrait se rendre à d'autres groupes féministes dans les régions, puis qui peut-être qu'ils prennent le temps, elles aussi, à leur façon de se raconter puis de raconter leur histoire. Parce que oui, la Côte-Nord, il y a eu des choses extraordinaire qui s'est faite. Mais moi, je suis convaincue que au Saguenay, en Abitibi, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, tu sais, il y a aussi des belles choses qui se font. Puis je pense que c'est important de se raconter. C'est important de laisser un leg aussi pour pas que l'histoire se perde, finalement, pour pas qu'on oublie le travail qui a été fait, puis pour qu'on puisse maintenir nos acquis aussi, puis qu'on puisse continuer à évoluer puis à améliorer nos conditions de vie autant sur la Côte-Nord que dans la province.
Puis, tu sais, je trouve que sur la Côte-Nord, il y a, oui, la sororité qu'on parlait tout à l'heure, mais tu sais, l'esprit de collectivité, la solidarité qu'on a, je pense qu'elle est exemplaire. Et il y a beaucoup de grands centres qui pourraient aussi apprendre de ces pratiques-là, en fait, et de cette solidarité-là qui fait qu'on est beaucoup plus fortes ensemble que tout ça.
J'avais peut-être une dernière question avant qu'on conclue l'entrevue. J'ai trouvé ça intéressant que les épisodes du balado nous amènent aussi dans une rencontre qui est assez intime avec ces femmes-là qui nous partagent leur parcours de militante leur parcours féministe. Ils nous immergent en parallèle avec l'histoire sociale de la Côte-Nord, des mouvements féministes qui ont travaillé à faire de la région un lieu plus sécuritaire pour les femmes, où elles peuvent s'épanouir en toute sécurité, mais on rentre aussi beaucoup dans les histoires, les parcours très personnels des différentes intervenantes. Pourquoi avoir adopté une approche aussi intime puis qui va presque dans le récit de vie ou dans le parcours de vie? Pourquoi c'est important pour vous?
Parce qu'il est riche, ce parcours. Parce que je pense que être féministe, c'est d'abord des valeurs qui sont très personnelles à chacune. Parce que c'est ce qui nous unit aussi à l'intérieur des groupes de femmes, parce qu'être féministe, c'est ça va au-delà d'un travail. On avait envie, en fait, de cette intimité-là avec ces femmes-là que souvent on voit militer, puis on... Des fois, on peut avoir des préjugés ou des fois, on comprend pas trop, tu sais, pourquoi ces femmes-là sont en colère. Mais quand tu prends le temps de les écouter puis d'écouter ce qu'ils ont vécu, ben là, tu comprends pourquoi. Fait qu'on avait comme pas le choix, je pense, d'aller dans cette intimité-là pour comprendre toute l'ampleur du mouvement. Puis parce qu'ils sont touchantes. Moi, ces femmes-là m'ont inspirée, m'ont touchée, m'ont... Parce que la base de la vie, c'est les liens qu'on tisse avec les gens. Puis je pense que sur la Côte-Nord, on est bien bon pour faire ça, parce qu'on aime vivre, parce qu'on aime se rencontrer, on aime se rassembler, parce qu'on aime être tissé serré. Parce que... Puis moi, ce qui m'a fascinée dans le balado, c'est qu'on parle avec des femmes qui ont vécu... une Anne Gagné que sa mère s'est fait assassiner par son père. On parle avec une Suzy Levasseur qui elle, a vécu une violence conjugale extrême. Ces femmes-là se sont servies de ce drame-là, de ces traumatismes-là pour décider de servir à la communauté puis décider d'essayer de changer les choses. Puis je pense qu'elles y sont parvenues de par leur travail au sein du mouvement féministe. Puis moi, ça me fait juste rappeler que dans le drame, dans le lait, dans la tristesse, dans la colère, il y a de la lumière, puis il y a de la solidarité, puis il y a des choses positives, tu sais, auxquelles on peut s'accrocher pour essayer, non pas de trouver un sens à ces gestes-là, mais juste de se faire du bien, tu sais, à quelque part, puis d'essayer de guérir de ça, je pense. Puis je pense qu'on comprend mieux aujourd'hui la violence conjugale. Je pense qu'on comprend mieux aussi la violence à caractère sexuel, le pourquoi du bon. On l'a beaucoup analysé. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire en ce sens. Mais leur travail ou leur passage dans le mouvement féministe a tellement apporté à plusieurs femmes. Tu sais. Puis ça, je trouve ça très, très, très touchant. Fait que, tu sais, les liens humains, c'est ce qui... C'est ça, c'est tellement important. Fait que je pense que c'est ça qu'on avait envie de revenir à l'humanité, de revenir à bien qu'est-ce qui nous unit pour être en mesure de nous élever tous et d'appartenir à cette mémoire collective-là qui, je pense, faut pas qu'on l'oublie. Faut pas qu'on oublie d'où on vient puis pourquoi on fait les choses.
Faut pas, on n'a pas besoin d'être fru pour être féministe. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi ça que le balado démystifie un petit peu, parce que les préjugés envers le féminisme, il y en a beaucoup, mais c'est, tu sais, je veux dire, c'est des cœurs, c'est du cœur, c'est des valeurs, c'est de la passion, c'est le fait de la défense collective de droits, tu sais. Fait que je pense que ce balado-là aussi fait ressortir que, ben, il y a des humaines en arrière de tout ça. C'est pas juste des femmes enragées, tu sais, au contraire. Fait que je pense que c'est important aussi de faire valoir ce point-là avec le balado.
Mais je vous remercie beaucoup toutes les deux. Je rappelle que j'étais avec Mélanie Bernier et Anne-Édith Daou, qui ont tous les deux participé à la production du vraiment très riche balado Paroles de Nord-Côtière, qui revient sur 40 ans de féminisme en Côte-Nord. Votre balado est disponible sur toutes les plateformes. On va mettre aussi le lien sur notre site web pour ceux et celles qui seraient intéressés à aller en écouter davantage. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci à notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent pour écouter ce balado Paroles de Nord-Côtière. Rendez-vous sur fréquenceinfo.ca, le lien qui vous y mène y est posté, ou trouvez-le évidemment sur vos plateformes balado préférées, tout comme l'émission Point de vue qui y est aussi, et son jumeau anglophone Viewpoints. On s'affiche sur près de 17 plateformes balado.
Bonjour, ici Adèle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca. Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca. radio@fréquenceinfo.ca.
Prendre le temps de vous dire que nos journalistes n'ont pas oublié de souligner le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, sur fréquenceinfo.ca, comme Daniel Aucoin, Marine Autogali, Julia Chénu, par exemple. Julia Chénu, qui nous parle du camp Courage, et Éline Coulou, du gala d'honneur d'Edmonton, du côté d'Ottawa, dans son reportage intitulé « Comprendre et prévenir la traite de personnes ». Marie Hillès nous apprend que 528 cas de traite de personnes ont été signalés par les services de police police en 2022 au Canada. Entre 2012 et 2022, 94% des personnes qui en ont été victimes étaient des femmes et des filles. 69% d'entre elles avaient moins de 25 ans. Le regroupement d'organismes féministes et francophones Action ontarienne a lancé une campagne de sensibilisation « Beau mensonge » destiné aux jeunes. Le reportage complet sur fréquenceinfo.ca. Notre dernier arrêt se fait à Yellowknife, où des sculptures sur glace à couper le souffle ont pris d'assaut le festival Snow King. Les sculpteurs sur glace ont travaillé avec acharnement 3 jours durant pour transformer leurs énormes blocs de neige compacts en œuvres d'art. Certains ont été couronnés, comme l'équipe de Y2Y, qui ont vu leur sculpture Coming Up for Air remporter la Palme d'Or. Ça ne s'est pas bien passé pour tout le monde, cependant. La sculpture de l'équipe locale de Yellowknife, composée de Ryan McCord, Shauna Morgan et Patrice Tremblay, intitulée Birdie in a Cage, s'est effondrée. Ici, Daniel Biru, qui couvre pour nous l'actualité des territoires du Nord-Ouest.
3 jours. C'est le temps qu'ont mis les sculptrices et les sculpteurs du Festival Snow King pour transformer de gros blocs de neige compacts en véritables œuvres d'art. Les 27 participants répartis dans 9 équipes venues de partout à travers le monde avaient comme mandat de construire la plus belle sculpture faite en glace et en neige. Et les résultats ont été surprenants. Des répliques de bâtiments iconiques des territoires, des animaux marins, des courants d'air, des montagnes et des jeunes enfants ont tous figuré parmi les sculptures finales. C'est finalement Coming Up for Air de l'équipe Y2Y, composée de Chris Schlagentwait, Leslie Leung et Adam Pusek, qui a remporté la première place, telle qu'annoncée par le Snow King en chef Anthony Folio.
And in the first place, which I'm very proud of because it's a local team, alumni from Snow King, Team Y2Y with the Belugas in underwater.
Chris Schlagentwait, qui a mené une équipe de Yellowknife et de Whitehorse, a avoué avoir travaillé d'arrache-pied pour remporter ce tournoi.
On the outside, it's an iceberg,
yes.
And on the inside, it's a sphere with, and its name is Coming Up for Air.
Yes.
So there's 3 seals on the wall of the inside going up for air, and it's an opportunity for us to take a minute and think about things, enjoy the light, enjoy time.
De l'extérieur, on voit un iceberg, mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les 3 phoques dans les murs à l'intérieur, dit-elle. Elle mentionne avoir eu l'idée de ce concept lorsqu'elle et ses coéquipiers sculptaient de la neige au Groenland l'hiver dernier. Chris Schlagentwait dit avoir bien apprécié le déroulement du tournoi et avoir bien hâte d'y participer à nouveau l'an prochain.
This time the challenge was to hollow it out, to empty out the middle and to maintain those 3 seals. It's sort of an inside-out sculpture.
Le plus dur pour nous a été de travailler de l'intérieur, ajoute la participante. Il nous a fallu maintenir les 3 phoques en place. Ça a été dur pour nous. Pour leur part, l'équipe Ragadas, avec 3 Québécois, se sont mérités la 2e place du tournoi. Isabelle Gass et Joël Gagnon sont partis de Longueuil au Québec pour rejoindre Eugène Gagnon, résident de Fort Smith, et ont décidé ensemble de faire une œuvre d'art qui représentait les flammes des feux de forêt de l'été dernier. La sculpture représentait beaucoup d'émotions pour les 3 coéquipiers, comme en témoigne Isabelle Gass.
L'année passée, avec moi, Pigel, puis Eugène, on s'est super bien entendu. On a fait une super belle sculpture. Fait que cette année, on voulait remettre ça. Puis on a, dans le fond, on a décidé de faire un hommage un peu à toute l'équipe des gens qui sont occupés des feux de forêt qu'il y a eu dans la région l'année passée, puisque Eugène est fire dispatcher dans le coin de Fort Smith, puis que ça l'a beaucoup affecté, puis il a travaillé super fort tout l'été, puis qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour de ça.
Isabelle et Joël, 2 sculptrices de formation, ont bravé le froid pour participer à nouveau à cette édition du Snow King, un événement où elles rencontrent plusieurs amis et connaissances à chaque année.
C'est pas des gens qu'on va voir souvent pendant l'année. On les voit seulement à ce concours-là, quand on va à Yellowknife, mais on essaie de passer de plus en plus de temps à Yellowknife quand on vient, parce que justement, il y a vraiment une belle communauté, puis on a envie de participer à cette communauté-là.
Les 2 femmes avouent avoir l'intention d'y retourner l'hiver prochain. Il reste encore 3 semaines au festival. Ici Daniel Biru, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. On espère qu'elle vous a plu. Des commentaires, questions, idées de reportage, écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. On remercie nos journalistes Daniel Biru, Gaël Mpoyo, Raphaël Ensley-Vincent. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation et coordonnateur de relève à l'information nationale. Merci d'être là. Restez à l'écoute de ceux et celles qui nous suivent. À la semaine prochaine. Ciao.
Crecemos.